Ne serait-ce pas le bonheur?
Roman de Carole Détain, publié chez The Book Edition en mars 2020.
Ne serait-ce pas le bonheur?
Sous-titre 2014, vacances tropicales. Première partie, à Paris. Chapitre 1, premier emploi. Le 15 août 2014, la famille Valente, le père, la mère et les deux fils revenaient à Paris après 2 semaines passées à Kerbihan. L'aîné des garçons terminait une année d'alternance dans une grande entreprise publique. Il quittait le statut d'étudiant avec un master de comptabilité contrôle audit en poche. Le vaste horizon de l'activité professionnelle s'ouvrait devant lui. Ses parents s'interrogeaient. Trouverait-il un emploi? Saurait-il se montrer assez persévérant et énergique pour forcer la porte d'une entreprise? Il lui faudrait sortir de sa chambre et de l'univers virtuel, des jeux sur écran qui l'attiraient, comme des lumières fascinent un papillon de nuit. Ne resterait-il pas allongé sur son lit jusqu'à point d'heure le matin, une fois toute contrainte disparue, sans plus d'alternance en entreprise ni de cours à l'université? Maud n'était cependant pas terriblement inquiète. Ces questions lui traversaient l'esprit comme malgré elle, par habitude presque. Son fils avait été soutenu et poussé à l'extrême pendant toute sa scolarité par elle-même et par de pléthoriques cours particuliers quand il était élève, par son père ensuite lorsqu'il devint étudiant. Mais à 23 ans, il possédait désormais son propre système de valeurs et Maud se sentait plus confiante. Il avancerait pas à pas, seul et à sa façon. Maud espérait qu'il ne rencontrerait pas en chemin de trop douloureuses péripéties. Il avait déjà incroyablement progressé ces derniers mois, seul et sans l'aide de sa maman, sur la route de l'âge adulte, lorsqu'une étudiante de sa promotion était devenue sa petite amie. Il s'était, seul donc, et sans l'intervention de sa maman, tourné vers elle. Plus exactement, il avait accepté, seul et de son propre chef, la proposition de Delphine d'inventer ensemble leur propre histoire. Ce fut une grande surprise pour les parents. Quelle chance, s'était-il dit, quand on connaît le caractère de Luc, fortement teinté d'un indiscutable oblomovisme. L'expression était de Maud, qui pensait au fameux protagoniste du célèbre roman russe. Il quitte la faculté, et s'il ne connaissait pas Delphine, sa chambre et ses relations virtuelles et ludiques pourraient très malencontreusement devenir tout son univers. Pourvu que ça dure, tel était le discret espoir explicitement formulé dans un bel ensemble par le père et par la mère quant aux futures relations de Delphine et de Luc. Delphine était apparue dans l'horizon familial des Valentes au moment idéal où les parents devaient bel et bien, contraints et forcés, abandonner leurs tâches éducatives. Les principes qu'ils s'étaient évertués à transmettre à leurs fils étaient pour l'essentiel concrets et positifs. « Accroche-toi à la réalité » fut leur principale exhortation qu'ils n'exprimèrent en réalité que rarement, mais ils le conseillèrent en ce sens pour le choix de ses études et ils participèrent à la réussite de ses examens. Pense donc à l'argent et à la sécurité matérielle, avait signifié leur comportement de parents, et cesse de rêver, s'il te plaît. Il se sentait en partie déchargé de cette mission, comme s'il l'avait confiée à la jeune demoiselle. Il n'aurait pu anticiper, ne serait-ce que quelques mois auparavant, plus favorable évolution. L'impasse, avant que Luc ne rencontre Delphine, leur paraissait imminente. Leur fils devait de trouver en lui-même la motivation et l'énergie pour franchir l'obstacle du début de la vie professionnelle. Il avait surmonté, soutenu par papa et par maman, les épreuves de la vie d'élève, puis d'étudiant, pour autant que le papa et la maman exerçaient sur lui un raisonnable ascendant. Le moteur de l'incitation parentale était alors encore suffisamment puissant. Mais quel avenir se dessinait ensuite devant eux ? Thibaut et Maud ne pourraient vraisemblablement plus, à l'âge qu'il avait atteint, le pousser à s'engager dans le combat de la concurrence professionnelle, à aller gagner sa vie, à insister chaque jour sans faiblir, alors qu'il n'avait pas besoin d'argent, qu'il habitait chez ses parents et que sa passion principale dans la vie paraissait être l'univers des jeux vidéo. L'avenir leur semblait singulièrement abstrait, mais Delphine était apparue. Et un vif courant d'air venu de l'extérieur avait soudain animé le paysage familial. Une pièce manquante semblait avoir, comme par magie, trouvé sa place au sein du puzzle incomplet de l'existence. Delphine, douce et prévenante, à portée de main, souriait à Luc, et il ferait peut-être ainsi, spontanément et non plus sous l'impulsion parentale, l'effort, au demeurant peu réjouissant, de chercher du travail. Delphine le regardait, elle le caressait. Elle se blottissait contre lui, elle voulait toujours plus longtemps passer du temps à ses côtés, elle lui proposait son amour. Il n'y croyait pas. Elle l'avait choisi, lui et pas un autre. L'événement était immense et mystérieux, ce cadeau lui était offert, qui ne venait ni de son père ni de sa mère. Il vivait une révolution intime. Il s'était vu, lorsqu'il était en cours à l'université de Val d'Europe, devenir l'objet de l'attentive sollicitude de cette petite jeune fille, jolie et sincère, facile à vivre, rassurante et tranquille, et qui, contrairement à lui, avait depuis l'enfance passé, seule et sans être aidée, toutes les étapes de la vie scolaire. Elle avait travaillé quand il le fallait, elle avait su doser son effort, elle s'était concentrée, avait bandé ses muscles très précisément au bon moment. Ce n'était pas toujours drôle ni facile, mais elle avait respecté les passages obligés, réussi les examens théoriques et pratiques, synthétiques et analytiques, littéraires et numériques, culturels et logiques. Elle avait rédigé les rapports de stage et les mémoires requis sur des sujets spécifiques et approfondis avec des professeurs parfois exigeants et peu réaliste. Elle s'était adaptée. Elle avait eu raison des obstacles. L'on ne déploie pas tous ses efforts sans une ligne de conduite parfaitement définie. L'on ne réalise pas par hasard un si long chemin depuis la petite maternelle jusqu'à 23 ans tout en n'étant pas soutenu par sa famille. Son père était artisan boucher, salarié chez un patron. Sa mère était gardienne. Ses frères n'avaient pas fait d'études. Delphine disposait sans nul doute de son propre moteur interne, puissant et performant. Elle devait pour sa part être singulièrement concernée par les fameux principes importants aux yeux de Thibaut et de Maud de réalité et de matérialité. Telle était probablement l'une des grandes lignes directrices de son existence. Elle était une jeune fille déterminée, capable de définir ses propres objectifs, en dehors de toute pression familiale, sociologique ou sociale, et Maud supposait qu'elle bénéficiait en cela d'un incomparable atout au seuil de sa vie d'adulte. L'avantage est en effet essentiel lorsque la nature profonde de son être s'avère très précisément cohérente avec le but que l'on affirme, social, extérieur et rationnel. Il s'agissait en ce cas du métier visé par Delphine. Elle disposait ainsi d'un solide équilibre, rassurant, pour envisager l'avenir. Delphine réalisait de plus, en septembre 2014, alors que les Valentes revenaient de Kerbillan, une belle continuité entre ses études et sa vie professionnelle. Son stage en alternance se transformait en emploi définitif. Elle s'était montrée sage et réaliste lorsqu'elle avait choisi un an plus tôt un stage non loin de l'appartement de ses parents. Elle avait anticipé qu'elle travaillerait dans une entreprise d'accueil tout en habitant à Bobigny et en étudiant à Val d'Europe. Elle voulait éviter les trajets épuisants de banlieue à banlieue. Elle avait trouvé une entreprise proche de chez elle et elle avait vécu sa dernière année d'étudiante dans de bonnes conditions matérielles. Thibaut et Maud comprirent aisément, lorsqu'ils firent sa connaissance, quelques mois plus tard, au printemps 2014, que cette petite jeune fille, discrète et souriante, aux longs cheveux bruns, possédait d'ores et déjà une vision précise de son avenir professionnel. Elle travaillait en alternance jusqu'à fin août, dans les services informatiques d'une grande banque commerciale. Elle serait ensuite, sans même cesser son activité, définitivement embauchée au siège social de l'EGB, l'entreprise générale de banque, située dans l'une des plus hautes tours de la Défense. La jeune étudiante, attentive et réfléchie, qui ne prenait la parole que lorsqu'on l'interrogeait, ne perdait pas de temps. Elle finissait ses études et s'apprêtait, au sein de la direction stratégique de l'EGB, à évaluer l'ensemble des risques de marché engagés par la banque. Elle vivait le moment déterminant du premier emploi. À la fin de l'été, les étudiants allaient se séparer, le plus souvent définitivement, mais Delphine avait saisi la main de Luc. Il ne ferait pas seul ses premiers pas hors du système universitaire, il s'en réjouissait. Il devenait concret et positif, suivant une motivation d'ordre personnel et non plus insufflée par ses parents. Il devrait imiter Delphine. Il n'allait pas, étant son petit ami, se laisser séduire entre les quatre murs de sa chambre aimée par d'obligeantes sirènes oblomoviennes. « Tu sais comme je l'aime, ma chambre », avait-il fréquemment dit à sa mère avant qu'il ne rencontre Delphine, quand il expliquait que sa vie n'était point pour lui déplaire. « Ma chambre avec mes habitudes, tu le sais, maman. Je n'aime pas trop les changements. » Maud avait en effet conscience que son fils aîné était loin de piaffer impétueusement, tel un jeune poulain impatient de découvrir la grande prairie verdoyante de son avenir. Il terminait calmement son stage en alternance dans une filiale de ZA Infrastructure. Le nouveau projet de gestion auquel il avait participé était achevé et il se trouvait presque sans activité, les journées étaient longues. « Prends patience, lui disait Maud, ce genre de situation est monnaie courante en fin de stage. » Il réussissait à passer le temps, il demeurait décontracté et vivait le soir des moments de bonheur devant son ordinateur, dans sa chambre, non loin de son frère. La fin du mois de septembre approchait. Non mais, crois-tu ? Répétait Thibaut à Maud, qu'il va un jour commencer à chercher du travail. Regarde-le donc, il ne fait vraiment pas d'effort, il y va lentement, plus tranquillement, on ne peut pas l'imaginer. Thibaut n'avait pas tort. Le jeune homme ne se précipitait pas. Il attendit l'ultime fin de son stage avant d'entamer les toutes premières démarches. Il parcourut les étapes les unes après les autres sans se bousculer. Il alla chez le coiffeur, il renouvela la photo de son CV, il réactualisa ses lettres de motivation et commença à un rythme qui lui était propre, c'est-à-dire point trop frénétique, à répondre à diverses offres d'emploi. Le contenu de son CV était en son genre des plus séduisants. Il mentionnait un double diplôme, un master d'université complété par le diplôme supérieur de comptabilité-gestion. Il lui suffisait désormais, s'il le souhaitait, de 3 années en cabinet d'expertise comptable pour devenir expert comptable. Il envoya sa première candidature à un cabinet qui recrutait des débutants. Il franchit le premier barrage et fut admis à passer les entretiens. Il revêtit son plus beau costume. Thibault le trouvait beau comme un camion. Il répétait cette expression avec un évident humour gourmand pour décrire son fils arborant la mirifique tenue du candidat idéal. Il la rapportait volontiers à Delphine qui acquiesçait gentiment. Luc se rendit aux entretiens, il revint et apprit une semaine plus tard que parmi la vingtaine de candidats évalués, il se trouvait au final en concurrence avec un seul autre jeune homme. Ce dernier fut au bout du compte retenu car il avait, lui avait-on dit, passé son année de stage dans un cabinet équivalent. Cette première tentative fut un succès. Maud se mit alors à penser que son fils était peut-être doué pour l'exercice de l'entretien. Il avait certes été dûment entraîné, canalisé, conseillé et guidé par ses parents la veille du grand jour. Il avait appris à déjouer tous les pièges imaginables. Il avait à maintes reprises répété des argumentaires précis et développés sur des sujets qu'il ne maîtrisait pas suffisamment à l'origine au goût de Thibaut et Maud. Il avait été parfaitement préparé, mais il n'était pas douteux, au vu des résultats obtenus, qu'il s'appuyait également sur ses qualités propres. Il devait savoir répondre, sourire, discerner les enchaînements, rebondir, donner le change, aussi bien que saisir au vol les allusions tacites ou implicites. Il manifestait ses aptitudes par lui-même, sans recours ni à son père ni à sa mère. Maud respirait, sa poitrine se dilatait, son regard attrapait la lumière. Sa deuxième candidature auprès du cabinet Lartigues Frères ouvrait grand la porte aux rêves les plus démesurés. La nonchalance de Luc avant l'été avait relativement contrarié son père, Lartigues Frères, qui figurait parmi les plus prestigieux cabinets français d'expertise et de commissariat aux comptes, avait alors proposé plusieurs postes à des diplômés débutants. Luc s'était montré égal à lui-même, il était occupé par son travail en alternance, ainsi que par ses derniers examens à l'université. Il était donc à cette époque, et selon ses critères personnels, bien assez sollicité. Son père, qui l'avait en vain incité à présenter sa candidature, n'avait évidemment pas pu insister trop lourdement, et l'occasion était passée. Les regrets de Thibaut furent d'autant plus vifs qu'un collègue de Luc, de la même faculté, de la même filière et de la même promotion, avait été embauché. Tu vois, Maud, avait commenté Thibault, cet étudiant a été retenu. Luc avait donc toutes ses chances. Il exagère, non ? Il pourrait réagir un peu plus vite, non ?
Je ne m'inquiète pas, avait répondu Maud. Prends patience, ton fils n'est pas toi, ce n'était pas le moment, il faut attendre.
L'article frère renouvela en effet son offre à la fin du mois de septembre. Luc saisit cette fois-ci la balle au bon. CV, lettre de motivation furent envoyées et, premier grand motif de satisfaction, il fut convoqué. Il partit avec costume et chaussures cirées pour une demi-journée d'examens écrits, d'études de cas, d'entretiens individuels et collectifs, de jeux de rôle, réunissant l'ensemble des candidats afin de les observer comme l'on examinerait des poissons dans de vastes aquariums conçus à cet effet. Le jeune homme avait, cela s'entend, été entraîné la veille. Il avait répété, il avait repris, il avait révisé. L'exercice avait ressemblé à la préparation précédente, avec toutefois quelques variantes, puisque le style de l'article frère présentait d'autres caractéristiques, légèrement différentes. L'on peaufina, l'on ajusta, l'on vérifia et l'on dynamisa, l'on demanda au futur candidat de trouver son propre vocabulaire, de formaliser ses idées, de s'exprimer de façon posée et nuancée. L'exercice se travaille. Il partit par un bel après-midi d'automne. Il traversa le jardinet devant l'immeuble. Sa démarche était calme, il mesurait l'enjeu. Il se retourna, jeta un coup d'œil vers le balcon de l'appartement. En même temps qu'il refermait le portillon, il vit sa mère. Derrière la porte-fenêtre, elle le regardait. Il savait, avant même de porter son regard vers le deuxième étage, qu'elle serait là, présente, comme elle avait été quelques minutes plus tôt lorsqu'il se préparait. Maud s'était assurée qu'il avait choisi la chemise qui convenait, ainsi que le pantalon qui venait d'être retouché. Il avait maigri depuis un an. Il était devenu un mince et grand garçon depuis que Delphine et lui comptaient l'un pour l'autre. Maud avait vérifié sa cravate et le contenu de son sac, les stylos, la pièce d'identité et autres éléments indispensables. Ces dernières précautions avaient en réalité été rappelées par le père. Il les avait dites à la mère, Luc de son côté y avait d'ores et déjà pensé. Luc était parti. Le père attendit, la mère attendit, tout en étant occupée. Maud n'avait pas pour habitude de rester enfermée dans l'appartement, ni de penser exclusivement à son fils lorsqu'il passait un examen ou l'équivalent, à savoir désormais un entretien d'embauche. Elle a dû écrire en son absence ou rencontrer des amis, sans que ne l'abandonne toutefois l'arrière-pensée de Luc. Il vivait un moment important, il faisait de son mieux, il essayait d'attraper la corde, de s'accrocher à la paroi, de se hisser, d'entrer dans la course. Le lendemain, il recevait un mail. Il avait donné satisfaction. Il serait reçu 10 jours plus tard par un associé ou senior ou décideur ou personne de poids, de pouvoir, qui statuerait définitivement cette fois-ci sur son cas. Il repartit. Le vent soufflait en un jour de tempête cet après-midi-là qui évoquait la mer. Il s'était la veille encore une fois prêté à une intense préparation familiale. Peut-on dire que Thibault vivait encore à cette date? La réponse penche très nettement vers la négative. Il ne vécut pas, à proprement parler, pendant la dizaine de jours qui précéda l'entretien. Il se contenta de développer une
incessante, obsession. C'est si important, répétait-il à Maud, te rends-tu compte? Il a passé le premier cap, vois-tu un peu la carte de visite qu'il obtiendrait s'il entrait chez l'Arctic Frère? C'est incroyable. Il a été sélectionné, mais imagine s'il devait échouer maintenant. Ce serait décevant, tu ne crois pas? On ne peut pas s'empêcher d'espérer. La tonalité de ses propos était parfois légèrement différente. En fait, non, disait-il alors. Ce ne serait pas si grave s'il ratait. C'est déjà tellement fantastique qu'il soit arrivé jusque-là. Dans tous les cas, il gagnera en assurance, c'est le plus important. Le retour de Luc fut attendu. Le loup blanc au coin du bois ne l'aurait pas été davantage. C'était un vieux, raconta-t-il, un vieux comme vous. Il a cru que j'étais en retard, mais ce n'était pas moi, sa secrétaire s'était trompée. Ah bon, répliqua Thibault, qui tentait avec peine de garder une apparence relativement calme, apparemment tranquille. Ah bon, il a compris. Ensuite, que tu n'étais pas en retard, tu t'es expliqué. Oui, oui, papa, t'inquiète pas, ça s'est éclairci. Et alors, il a conclu comment? Le père et la mère, unanimes et passionnés, posaient cette unique question dans un magnifique ensemble, aussi impatient qu'angoissé. Il a dit que c'était plutôt rare, mais que pour une fois, il était assez d'accord avec la présélection, et ensuite il a conclu que les administratifs allaient m'appeler. « Ah bon, ah bon? Vraiment, il a dit ça ?» Les parents répétaient ces mots, en chœur ou en écho. Ils voulaient les réentendre, les interpréter, les réinterpréter, les tordre, les creuser, les comprendre ces mots à la virgule près, que monsieur le décisionnaire, une huile de l'Arctic Frère, avait concédé en fin d'entretien. « Il n'y a aucun problème, commenta Maud, une fois seule avec Thibault. Il est pris, c'est évident. »« Oui, tu as raison, lui répondit Thibault. Mais enfin, il faut attendre. Tant qu'on n'a pas la confirmation écrite, formelle, officielle, il faut être prudent, imagine. Le grain de sable, le fameux grain de sable peut toujours intervenir. Et alors, en réalité, rien n'est vraiment sûr. » Luc attendait, lui aussi. Il avait le sentiment d'avoir réussi les entretiens, de groupe puis individuel, il croyait s'être montré vif et à l'aise, l'ambiance lui avait semblé détendue, mais tout comme Thibault, il demeurait réservé tant que l'affaire n'était pas définitivement conclue. Il espérait l'appel de l'Arctic Frère. Il dormit tard le lendemain et n'entendit pas la sonnerie. Un message sur son répondeur l'invitait à rappeler. Son père bondit intérieurement comme un léopard affamé sur une gazelle à portée de griffes, comme un paparazzi sur une princesse royale, comme un chercheur d'or sur un nouveau filon. « Non, mais il va mal, dit-il à Maud. Il dormait. Tu te rends compte? Il aurait la réponse maintenant. Il faut qu'on sache absolument. » José, l'un de ses amis, passa la journée avec lui. Luc avait retrouvé à peine son stage terminé, son rythme de jeune homme décontracté avec des jeux tardifs, et un réveil tout aussi peu matinal. Il avait mené, ainsi que Maud l'avait anticipé le plus calmement du monde, sa recherche d'emploi et n'avait rencontré ses premiers gros rats, pour employer une terminologie familière désignant les cadres extrêmement supérieurs d'entreprise, qu'une fois son stage d'alternance achevé, sa période de chômage théoriquement commencée. Il fut cependant le premier à regretter son sommeil du matin. Il rappela son succès, il attendit, posté toute la journée devant son téléphone, qui demeura silencieux. Le lendemain, à 9 heures, le téléphone sonnait de nouveau. Il était encore au lit, il ouvrit un œil, mais ne répondit pas. N'ayant aucune intention de sembler apathique ou, pire encore, Ne pas oublier de se méfier du sommeil du matin lors de circonstances éminemment importantes. Il laissa sonner, écouta le message, puis rappela. La réponse devint dès lors très officielle. Le contrat signé par l'entreprise arriverait par la poste en 2 exemplaires. Luc le renverrait après l'avoir signé en retour. L'immense joie put enfin éclater. Maud était à la maison et Thibault dans son bureau, les nouvelles circulèrent par téléphone vers le père et les grands-mères, l'irruption du volcan longtemps maintenu sous pression fut explosive, les doutes étaient enfin balayés, le sommet vaincu et l'on profitait du moment. L'on s'accordait une confortable pause pour contempler le fastueux paysage après le plus harassant des périples. On savourait, on soufflait, on s'émerveillait, on n'y croyait pas, on s'embrassait, on souriait, les regards s'enlaçaient. On se comprenait, on connaissait la joie de l'autre, on discernait en ces instants le fond des cœurs, transparent et limpide. Le soir, au retour de Thibault, la famille s'engagea résolument dans la délicieuse phase commentaire de l'inénarrable succès. Les parents ne cessaient de répéter à leur fils qu'il était incroyable. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait, c'est fantastique, lui disait-il. Regarde un peu, c'est la première entreprise quasiment que tu sollicites et tu es pris. Et quelle entreprise prestigieuse, la grande classe des entreprises. Thibault et Maud mesuraient le chemin parcouru à si grand peine par leur fils. Ils l'avaient tant contraint qu'il s'était inquiété pour l'estime qu'il se portait à lui-même. Il aurait été dramatique qu'il réussisse à le porter haut et loin, tout en saccageant sa confiance en lui. Il s'était forcé, à chaque fois qu'il l'avait pu, de mettre en valeur ses qualités propres, tout en n'abandonnant pas leurs exigences, et il pouvait enfin, ce soir-là, donner libre cours, sans réserve ni nuance, à leur admiration enthousiaste. C'était lui, sa personnalité, son sens du contact, de la répartie, c'était lui qui l'avait emporté, lui, et personne d'autre. La brise de l'allégresse soufflait dans l'appartement. Romain, le jeune frère de Luc, ne se laissait en rien distancer. Il arpentait lui aussi les chemins, largement dégagés de la félicité. La famille avait navigué dans le même bateau, ramé, souqué, ajusté les écoutes, tendu vers la même destination. Raconte, raconte maintenant, il s'est passé comment exactement l'entretien ? Thibault et Maud voulaient tout savoir, aucun détail, aucune anecdote ne devait, pour leur plus grand plaisir, être négligée. Romain écoutait aussi passionné que ses parents. Le temps passerait et le récit, peu à peu, s'effacerait. 2 anecdotes, cependant, resteraient dans la mémoire de Maud. Elle se sentait si fière. Luc était habile, il la dépassait. Elle croyait approcher le bonheur quand elle mesurait concrètement et intimement qu'il n'était pas elle. Il ne subirait pas les angoisses qui l'habitaient depuis toujours, lui semblait-il, et qui ne l'abandonneraient sans doute jamais. Elle l'avait connu, tout petit être, qu'elle se devait d'aider et de préparer à la violence du monde telle qu'elle l'apercevait. Sa responsabilité était immense et que pouvait-elle lui offrir? Lorsqu'elle considérait ses propres piètres performances professionnelles et l'intense traumatisme dépressif qu'il avait à l'âge de 27 ans abattu, jusqu'à détruire en elle le plus infime désir de vie. Elle l'avait guidé, tout en espérant que son chemin serait moins douloureux que le sien. Connaître le tempérament de son fils lorsqu'il était enfant n'avait pas été facile. Sa joie de vivre, ses jeux, sa quête de l'amitié, son aptitude aux rêves lui appartenaient, mais pouvaient également n'être que l'apanage de son jeune âge et disparaître avec le temps. Elle était inquiète. Et s'il était comme moi, se demandait-elle, et si l'état de grâce de l'enfance devait céder la place à la reproduction du même? Maud le redoutait, et elle se réjouissait quand elle découvrait son sens de la répartie, par exemple, dont il avait dû faire preuve pendant les entretiens, et dont elle-même se sentait largement moins pourvue. Il était différent. Elle en était heureuse. La première anecdote que Maud garderait en mémoire était celle où l'homme qui l'interrogeait, l'une des huiles de l'entreprise, ou gros rat pourrait-on dire, se montra passablement inélégant, non plus que singulièrement peu subtil. Et donc, demanda-t-il au détour de la conversation, vous avez eu une mention avec votre bac? Thibault et Maud, traversés soudain par une puissante angoisse rétrospective, écoutaient leur fils. Ils attendaient la suite, mais qu'avait-il donc pu répondre à cette curiosité aussi étroite qu'étriquée, puisqu'elle n'était depuis longtemps plus d'actualité, étant donné le niveau d'étude atteint par Luc? Elle recelait cependant, quoi qu'on pût en penser, une indéniable amorce de piège. Chacun sait que l'Artigue frère recrute parmi l'élite des étudiants. Au sein du vivier, chaque année renouvelée, des jeunes HEC polytechniciens et centraliens. Il ne saurait, pour l'essentiel, condescendre à moins. Pourquoi ne pas se réserver le meilleur de la crème lorsqu'on peut se le permettre? Il était de la sorte évident pour M. Huile ou Gros Rat que les mentions au bac étaient monnaie courante. Était-il vraiment nécessaire de le mentionner? Les HEC polytechniciens et autres centraliens avaient obtenu leur mention qui plus est sans effort. Il n'est donc pas indispensable d'en parler. Sauf que, si l'on en parle, et cela ne fait jamais de mal de l'évoquer, puisque l'on est entre soi, l'on peut toujours, avec un sourire entendu et complice, se rappeler entre soi donc ces hauts faits d'armes d'éternels excellents élèves. Monsieur Rat ou Rat d'huile ne s'en priva pas. Il s'avérait justement que sur le CV du jeune Luc Valente, la brièveté apparaissait retentissante au niveau des diplômes obtenus, où il était indiqué bac S, sec. Bizarrement donc, sans la moindre mention spécifiée. Il était par trop tentant, lorsque l'on s'appelle Monsieur Rat, Huile, Huile de Rat ou Rat d'huile, de demander « Eh bien, et votre mention ?» La curiosité de Thibault atteignit de gigantesques sommets. La question était indubitablement dangereuse. Que pouvait répondre son fils ?